journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ils sont trois, ils rentraient de Chine. Trois Français sont placés à l'isolement à l'hôpital. Ils sont touchés par le coronavirus. Les autres titres, Laurence.
Nous reviendrons sur la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites au moment où le Conseil d'État dénonce le manque de visibilité financière du projet de loi. À l'étranger, Donald Trump est devenu hier le premier président américain à prendre part au défilé annuel des militants anti-avortement. Direction Melbourne, à la fin de ce journal, l'Open d'Australie de tennis où le Français Gaël Monfils s'est qualifié pour les huitièmes de finale.
L'invité à partir de 8h20, ce sera le politologue Dominique Régnier, directeur général du think tank Fondapol, la fondation pour l'innovation politique.
France Inter.
Il y a désormais en France 3 cas confirmés de coronavirus. 3 patients recensés à Bordeaux et à Paris. Ces malades ont tous séjourné en Chine. Ce sont les premiers cas européens, ont annoncé les autorités sanitaires françaises. Les patients ont été placés à l'isolement. Jeudi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, expliquait à la presse que la maladie avait peu de chances d'arriver en France. Elle vante désormais aujourd'hui l'efficacité de notre système d'analyse médicale et les voyageurs qui rentrent de Chine doivent se surveiller, Véronique Julia.
Impossible de fermer nos frontières, estime la ministre. Dans un monde comme le nôtre, ce serait illusoire, dit-elle, d'imaginer qu'on puisse ainsi empêcher l'épidémie.
Nous ne pouvons pas évidemment contrôler les personnes qui atterrissent à Bruxelles et qui rentrent sur le territoire par le train ou la voiture. Il y a aussi énormément de gens qui font de multiples escales pour rentrer en France. On voit bien aujourd'hui la difficulté de fermer les frontières.
Idem pour la température. Pour Agnès Buzyn, ça ne sert à rien de la prendre aux passagers venant de Chine.
Il suffit que les gens prennent de l'aspirine un quart d'heure avant l'atterrissage pour qu'ils n'aient plus de fièvre au moment du passage. Et souvent, les cas arrivent sans avoir de température et ils sont contagieux 2, 3 ou 8 jours après sur le territoire.
Pour la ministre, il faut faire avec le virus comme avec un incendie. Repérer la source au plus vite, isoler le patient infecté et remonter toute son histoire à ceux qui ont été en contact avec lui ou qui rentrent de Chine. Surveiller les symptômes. Mais en cas de fièvre, ne surtout pas aller aux urgences, rester chez soi.
Qu'elles n'aillent pas chez un médecin généraliste, qu'elles évitent tout contact et qu'elles appellent en cas de symptômes ou de fièvre le centre 15 pour que le SAMU vienne les chercher.
La ministre estime encore aujourd'hui que la meilleure barrière à l'épidémie reste une bonne information du public sur la conduite à tenir. Elle estime aussi que la France est bien équipée pour repérer très vite, grâce à ses tests, les infections.
Et Véronique Julia, en Chine, une quarantaine de personnes ont désormais succombé au coronavirus dans la province de Hubei, berceau de l'épidémie dans le centre du pays. La Chine qui a mis en place une grande opération de quarantaine couvrant 13 villes de cette province afin de contenir la contagion du virus. Par ailleurs, le Quai d'Orsay est en train de contacter les Français. Ils seraient 250 encore présents à Wuhan pour les évacuer. Et les, ajoutons que les Chinois donc ont placé en quarantaine bon nombre de personnes. La vie est très sévère au lendemain d'une nouvelle manifestation nationale contre la réforme des retraites. Nous y reviendrons dans un instant. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction du pays, a rendu un avis très critique sur le projet défendu par le gouvernement. Le Conseil d'État dit n'avoir pas eu assez de temps pour étudier sereinement les textes de loi. 3 semaines seulement, pendant lesquelles d'ailleurs le gouvernement a changé plusieurs fois son fusil d'épaule. Ce même Conseil d'État affirme que l'impact financier présente des lacunes, en particulier sur la hausse de l'âge de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors, les dépenses d'assurance chômage et celles liées aux minima sociaux.
Ils étaient encore des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, mobilisés hier contre la réforme des retraites.
39 000 manifestants à Paris, selon Occurrence, un cabinet indépendant de comptage, notre partenaire à Radio France. Une journée symbolique donc, puisque le texte a été présenté devant le Conseil des ministres et approuvé, même s'il est pour l'instant dépouillé de l'une de ses mesures les plus controversées, l'âge pivot qui fixera les fins de carrière pour une retraite à taux plein. À Paris, la manifestation s'est terminée sur la place de la Concorde. C'est le reportage d'Adrien Toffoli.
Comment ça peut se finir? À mon avis, mal.
Une prédiction que Fabrice n'a pas franchement envie de voir se réaliser. L'enseignant de 49 ans, présent à chaque manifestation et au rassemblement de Gilets jaunes, pose un constat simple.
Il pourrait bien avoir 10 millions de personnes dans la rue, ça, ils s'en foutraient royalement.
Manifester a montré ses limites, nombreux sont ceux qui le reconnaissent dans le cortège, le climat social se dégrade, proche de l'insurrection, confie Fabrice, mais qui voit dans les dernières actions symboliques des enseignants ou des avocats, ou dans les actions coup de poing contre les ministres et le président de la République, un moyen non violent d'obtenir gain de cause.
Emmanuel Macron soit obligé de quitter son théâtre parce qu'une centaine de gens gueulent contre lui, c'est peut-être symbolique, mais il n'empêche que ça le gêne dans son quotidien. Et que ses députés, à force d'avoir leurs vœux perturbés, leurs déplacements, qui est toujours des gens, Je crois que ces gens-là, il faut les toucher dans leur quotidien. Quand ce sera vraiment répétitif et que ce sera même une forme de harcèlement, je pense que ça pourra changer les choses.
Si les manifestants chantent encore « On est là », beaucoup défilent sans plus y croire. Nathalie, aide-soignante dans le privé, aide cela.
On a un peu le moral en bas des chaussettes parce que on voit que ça bouge pas beaucoup. On croit plus à rien, quoi, politique, tout ça. On sait même pas si on va aller voter aux élections présidentielles. On croit plus à rien.
Un sourire se dessine sur son visage, mais on ne lâche rien, précise-t-elle, avant de me donner rendez-vous à la prochaine manifestation, mercredi prochain.
Reportage d'Adrien Toffolet. À l'étranger, aux États-Unis, Donald Trump est le premier président de l'histoire des États-Unis à défiler contre l'avortement.
C'est un grand honneur pour moi d'être le premier président de l'histoire à participer à la marche pour la vie, a-t-il déclaré lors de la grand-messe annuelle des militants anti-avortement. Les yeux rivés sur le scrutin de novembre, Donald Trump s'en est pris avec virulence aux démocrates. Il a multiplié les hommages aux, je le cite, millions de femmes extraordinaires à travers l'Amérique qui se battent pour le droit à la vie. Il n'en fallait pas plus pour galvaniser les militants pro-life. Reportage de Grégory Phillips.
Il y a 2 ans, il avait adressé un message de soutien vidéo aux manifestants. Mais cette fois, Donald Trump a traversé Constitution Avenue pour venir dire son soutien total au mouvement pro-vie et dénoncer les démocrates qui, sur l'avortement, dit-il, ont adopté les positions les plus extrêmes et les plus radicales. On a besoin de son soutien. Il a été formidable avec nous, commente Claudia, venue de Pennsylvanie. Nous sommes reconnaissants. Contre l'avortement, il a fait plus que n'importe quel président. Il va continuer comme nous. Il refuse qu'on tue des bébés et on l'aime pour ça. Il faut dire que Trump, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, a beaucoup donné aux anti-avortements. Il a nommé 2 juges conservateurs à la Cour suprême et réduit les fonds fédéraux alloués aux programmes permettant les IVG, comme le planning familial. C'est le début d'un changement en Amérique, dit John du Connecticut. Ça a déjà commencé à la Cour suprême et dans les tribunaux du pays. Le président a nommé 187 juges. C'est une nouvelle ère. Cette marche aujourd'hui n'est que la première vers d'autres succès pour nous. Ce que ces manifestants espèrent, c'est que l'arrêt Roe versus Wade, qui en 1973 avait légalisé au niveau fédéral l'interruption volontaire de grossesse, que cet arrêt soit remis en cause et un jour annulé par la Cour suprême des États-Unis. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, dans l'enceinte du Congrès, les sénateurs poursuivaient leur débat dans son procès en destitution. La parole sera ce samedi à la défense du milliardaire qui dispose maintenant de 24 heures pour présenter son argumentaire. L'association française SOS Chrétiens d'Orient est sans nouvelles de 4 de ses collaborateurs en Irak. 3 Français et leur accompagnateur irakien ont disparu depuis lundi. On en reparle dans le journal de 7h30. 22 ans de réclusion criminelle pour Mourad Fares. L'homme a été reconnu coupable hier soir par la cour d'assises de Paris d'avoir incité des dizaines de jeunes à partir faire le djihad en Syrie, mais aussi d'y avoir dirigé un groupe de combattants francophones.
L'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, l'étau se resserre autour de Michel Fourniret.
Son ex-femme Monique Olivier a laissé entendre hier que Michel Fourniret était, selon elle, bien à l'origine de la disparition de la fillette. Disparition survenue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. On passe au sport avec l'Open d'Australie de tennis. Gaël Monfils, dernier Français encore en lice à l'Open d'Australie, s'est qualifié pour les 8e de finale. Il a battu le Letton Ernest Gulbis 3-7-0. On rejoint Fabrice Abgral à Melbourne.
2h27, c'est le temps qu'il aura fallu à Gaël Monfils pour se débarrasser du Letton Ernest Gulbis. Gaël Monfils qualifié sans forcer face à Gulbis, ex numéro 10 mondial et demi-finaliste à Roland-Garros en 2014. Il a parfaitement maîtrisé la situation, Gaël Monfils. Il n'a jamais été vraiment menacé. Il fallait être concentré, méfiant et vigilant. C'est ce qu'a su faire Gaël Monfils. Alors, évidemment, rien de véritablement transcendant ni de vraiment spectaculaire, mais Gaël Monfils a livrer un match sérieux, appliqué, sans éclat ni relief, mais suffisamment solide pour sortir Ernest Gulbis, parfois génial, trop peu souvent, mais surtout en manque de sensation, auteur de 52 fautes directes. C'est la 4e fois que Gaël Monfils se hisse en 8e de finale à Melbourne.
Fabrice Abgral, et au prochain tour, le Parisien affrontera l'Américain Taylor Fritz ou bien l'Autrichien Dominic Thiem.
C'était le journal de Laurence Thomas, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Avec pas mal de gris à l'horizon aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait, on parlera simplement de courtes éclaircies ponctuées de brouillard givrant ce matin du nord de la Loire au quart nord-est, dans des températures de 0 à moins 4 degrés, alors qu'il fait déjà beaucoup plus doux sur le reste du pays, avec des pluies faibles en début de matinée sur la pointe bretonne et autour de la basse vallée du Rhône. En journée, les brouillards et les grisailles vont très peu évoluer dans la moitié nord du pays. Des pluies faibles vont finir par gagner toute la façade atlantique au fil de l'après-midi. Sur le Roussillon et l'ouest de PACA, un ciel souvent pluvieux. À noter de faibles chutes de neige à moyenne altitude sur les Pyrénées et le sud des Alpes, dans des températures de 14 degrés en moyenne dans la moitié sud, contre 6 plus au nord et parfois d'à peine 2 sous les grisailles les plus épaisses.